Ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Chroniques au chapitre 29 plutôt. Nous prendrons la Sainte Cène, le Saint Repas après la prédication. J'ai pensé que c'était opportun qu'on puisse d'abord ensuite ensemble partager la parole de Dieu. Dans le premier livre des Chroniques au chapitre 29. Nous lisons à partir du verset 10. Il est écrit: David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Amen. Amen. Ce passage, qui est un passage marquant, je ne sais pas ce que vous en pensez, lorsque nous lisons ces quelques versets, nous y voyons là le cœur d'un homme qui a servi Dieu toute sa vie, qui arrive à la fin de son existence, de son ministère. Il avait à cœur de bâtir le temple de Dieu. Un prophète est venu lui dire de la part de Dieu: non, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Alors il aurait pu baisser les bras, dire ben voilà, d'accord, j'accepte. Il aurait pu se rebeller, il aurait pu mal réagir, mais c'était David, on le connaît, on sait l'attachement qu'il avait pour son Dieu. Alors il va faire quelque chose, il va préparer tout ce qu'il fallait pour le temple. Il ne va pas rester inactif. Il savait que l'œuvre, ce n'était pas lui qui allait la faire, mais il va préparer. Il va mettre la fortune du pays au service pour le temple. Il va mettre sa propre fortune pour la construction, pour l'élaboration du temple. Et alors que tout le peuple est réuni, il va faire cette prière extraordinaire, comme pour clôturer sa vie, comme pour dire: voilà, j'ai remporté des victoires. Il y a eu des combats dans ma vie, j'ai perdu à des moments courage, espoir, mais il y a toujours eu Dieu qui a été là. Il va dire: la puissance est à toi, l'or est à toi, la fidélité, la grandeur, la magnificence est à toi. Tout ce qui m'appartient vient de toi. Il va faire ce constat dans sa vie que tout ce qu'il a, tout ce qu'il a pu acquérir, son royaume, son état, sa vie spirituelle vient de Dieu. On pourrait dire, pour nous qui sommes chrétiens en 2015, tout ce que nous avons, nous reconnaissons que c'est Jésus-Christ qui nous le donne. On ne peut pas et on ne veut pas surtout se tromper de chemin, s'égarer, se dire: si j'en suis là aujourd'hui, c'est par mes propres forces. C'est là l'effet de mes efforts, de mon mental, de ma réflexion. On ne veut pas s'égarer et se tromper de chemin cet après-midi. On veut reconnaître que c'est Christ qui a tout accompli. Comme David qui est là devant le peuple, c'était un moment important parce que Salomon est là, Il va être institué roi d'Israël, il va prendre la suite, et devant tout le monde, David va avoir cette humilité de cœur, d'esprit, en disant tout ce qu'il y a eu, tout ce qui va se faire, c'est Dieu qui nous le donne. Et nous devons considérer, ce n'est pas vraiment ça la profondeur, le fondement de mon message, mais c'est une introduction qui était chère à mon cœur, de comprendre que ici-bas, tout ce que nous avons, c'est Christ qui nous le donne parce que c'est lui qui a payé. Il a voulu se donner pour notre salut, on le verra, il a voulu se donner, mais pour qu'on puisse saisir aussi cette réalité spirituelle, que malgré tout ce qui peut se passer ici-bas, parce que malgré tout ce que nous pouvons traverser comme tempête, malgré tout ce que nous pouvons acquérir en termes de richesse, de biens matériels, en termes de richesse spirituelle, ça vient de Dieu. Et David va dire cette phrase extraordinaire qui va constituer un petit peu le fil conducteur de ce message. À un moment donné, alors qu'il a fini sa prière, il est face au peuple, il est face à tout Israël, il y a son fils qui est à côté de lui, il va dire « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. » Ça résume, cette phrase va résumer la prière de David, va résumer la vie de David. Tout vient de toi. Et le titre de ce message cet après-midi, c'est « Et nous, qu'est-ce que nous offrons au Seigneur ?» Et nous. Parce que je pense que cet après-midi, nous sommes tous d'accord pour dire « On veut bien recevoir du Seigneur ». Je pense que cet après-midi, on est tous d'accord pour dire effectivement, tout vient de Christ. Tout a été fait par Christ, pour Christ, et Christ s'est donné à l'Église pour que nous puissions jouir des bénédictions de cette grâce. Cet après-midi, on est tous d'accord pour dire, oui Seigneur, tout vient de toi. On est tous d'accord pour dire, nous recevons ce que nous le recevons de ta main. On est tous d'accord et on veut des bénédictions et c'est normal. Mais en retour, cette question est là, cette question est lourde sur mon cœur. Et nous ? Et nous, qu'est-ce que nous offrons au Seigneur ? Qu'est-ce que nous avons en retour ? Parce que le Seigneur, lui, nous a tout donné. Alors, on pourrait ensemble voir rapidement, parce que ce n'est pas vraiment ça le fondement du message, mais au fait, qu'est-ce que Dieu nous a donné ? Cet après-midi, on pourrait peut-être pas faire un tour de table puisqu'on n'est pas autour d'une table, mais je pourrais interroger des frères, des sœurs en disant « Mais et toi, et vous, Christ, qu'est-ce qu'il vous a donné ?» Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Dieu a voulu nous donner son salut. Oui, nous recevons tout de Dieu. Le salut de notre âme vient de Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que, et excusez-moi de revenir sur cela, mais ça constitue quand même le fondement de tout message, la croix de Jésus-Christ. Parce que Dieu a voulu que nous puissions jouir d'une vie réelle, non pas d'une vie illusoire, non pas d'une vie virtuelle, non pas dans une vie de mensonge, non pas dans une vie de faux-semblants, mais dans une véritable vie. Dieu a voulu nous donner son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mais déjà ici-bas sur terre, jouir d'une véritable vie, jouir du salut. Le salut n'est pas venu dans les évangiles, à la naissance, au ministère terrestre de Jésus-Christ, mais le salut était déjà dans le cœur de notre Père dès la chute d'Adam et d'Ève. Et tout au long de la parole de Dieu, nous voyons un Dieu qui avait ce souci-là de communiquer cette pensée qu'il voulait nous sauver et qu'il était capable de nous sauver. Oui, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu et c'est sa main qui nous communique. Et laissez-moi vous dire cet après-midi que si nous pouvons jouir d'une bénédiction quelconque, si nous avons expérimenté le salut, si nous avons expérimenté, et j'ai noté beaucoup de choses, la paix, si nous avons expérimenté la joie, c'est parce que les mains de Christ ont été percées. et que nous avons reconnu dans notre vie que nous avions besoin de Jésus-Christ, que nous avions besoin d'un sauveur. Et à l'image de David, de cette même manière qu'il nous a laissé cette prière et cette phrase, nous pouvons, cet après-midi, arriver à cette conclusion, tout vient de toi. Tout vient de toi. J'ai noté, il nous donne la joie, le psaume 34, verset 6. Ce psaume, peut-être que vous avez l'habitude de lire, que vous avez surligné dans votre Bible. Peut-être que vous avez des marque-pages avec ce psaume, des posters, des calendriers. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Dieu nous donne la joie. Je ne sais pas comment vous vivez ces choses, ces versets, je ne sais pas comment vous vous êtes habitué à vivre la vie chrétienne, à vivre une vie attachée au Seigneur, mais laissez-moi vous dire que le monde à l'extérieur est totalement étranger à la joie. Le monde à l'extérieur est totalement étranger à la paix, au salut, à l'espérance, au bonheur. Le monde ne connaît pas ces choses-là. Le monde a une vague idée de ce que peut être la paix, de ce que peut être des courts moments de plénitude, de joie, de bonheur, mais le monde ignore pleinement, réellement ce qu'est la paix de Dieu parce qu'il marche à côté. Et cet après-midi, si vous connaissez ces choses, vous avez l'occasion de bénir le Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, on aura la joie de participer à ce saint repas. Et comme on l'a entendu dans une prière, oui, ces symboles sont comme là pour nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ, mais également qui va revenir nous chercher. Dieu nous a donné l'espérance, Dieu nous a tout donné. Et j'avais noté ce verset parce que je pense qu'il était là comme pour marquer ces quelques choses que nous avons partagées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a toutes sortes de bénédictions, et peut-être qu'on a du mal quelquefois à se saisir de ces bénédictions. On peut avoir quelquefois des difficultés à rentrer, comme on l'a entendu dans la présentation des chants. On peut passer par des moments difficiles. On peut savoir qu'avec Christ, on a la joie, le bonheur, la paix. Mais quelquefois, les tempêtes de ce monde peuvent nous faire passer à côté. Toujours est-il, c'est que nous avons des bénédictions et des bénédictions spirituelles à disposition et nous pouvons nous en saisir par la foi. Nous pouvons les prendre. Oui, nous pouvons tous dire, je pense en tout cas, et si vous ne pouvez pas le dire, plaise à Dieu que vous puissiez sortir de ce lieu en ayant cette conviction cet après-midi, c'est que tout vient de Dieu. En ayant cette conviction que ce que nous avons, c'est parce que Dieu nous l'a donné par sa main, par la main percée de Jésus-Christ. Mais nous, et c'est là la question, nous, qu'est-ce que nous offrons en retour au Seigneur? Qu'est-ce que nous offrons? Et on va le voir, c'est mon deuxième point. Il y a ce texte que nous connaissons tous dans Romains chapitre 12 au verset 1, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On pourrait traduire un culte logique. On connaît tous, je pense, ce verset, on l'a tous lu, médité, on a entendu des prédications sur ce verset, mais je pense que cet après-midi, il faut que nous puissions considérer peut-être davantage ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu, si ce n'est notre vie? Qu'est-ce que Dieu attend en retour de nous, pour nous? Qu'est-ce qu'il attend de notre part, si ce n'est le sacrifice complet de notre vie? Dieu ne nous demande pas d'aller sur une croix, vous comprenez bien l'image. Dieu ne nous demande pas de nous flageller, de nous meurtrir. C'est pas ça qui va nous attirer sa sympathie. C'est pas cela qui va nous attirer son approbation. Mais je pense que parce que Christ s'est donné, parce que nous pouvons, et je pense que parce que c'est la parole de Dieu, nous pouvons dire et attester que ces choses sont véritables, que ce que David a dit, c'est une vérité. Tout vient de Dieu. Dieu nous donne les choses, Dieu nous communique tout par sa main, mais nous, nous avons aussi notre part à faire. Il y a un homme qui est venu sur mon cœur, une histoire, et on en a un petit peu parlé ce matin, c'est la vie d'Abraham. La vie d'Abraham qui illustre parfaitement cette pensée. On connaît tous Abraham. On connaît tous parce que la Bible en parle grandement, parce que on aime l'histoire d'Abraham, on aime méditer Abraham, et on passe quelquefois peut-être rapidement sur des épisodes marquants de sa vie, parce qu'on a eu l'habitude de l'entendre, parce que pour ceux qui ont connu l'école du dimanche, on en a parlé, on en a reparlé, alors quelquefois on s'habitue à la parole de Dieu et on peut passer à côté de vérités fondamentales, des vérités qui doivent être là inscrites par le doigt de Dieu sur notre cœur. Vous savez, Dieu avait fait une promesse à Abraham, on connaît tous cela. Il lui avait promis qu'il serait le père d'une multitude, d'une grande nation. Son nom va être changé, son identité va être changée. Son identité va être marquée par Dieu et c'est notre image. Je pense et j'espère en tout cas que nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, nous avons été marqués par Dieu. Comme l'a dit Lucas, il y avait un avant la croix pour notre vie. Et je pense que c'est normal et c'est ainsi. Et en tout cas, ce qui est normal, c'est que la croix doit marquer un changement dans notre vie. Non pas que Dieu est venu écraser ce que nous étions, non pas que Dieu est venu balayer, bouleverser, changer dans le mauvais sens du terme, mais Dieu a pris ce que nous étions, un tas de ruines, pour reprendre l'expression biblique, et a reconstruit ce tas de ruines pour en faire un édifice qui lui soit agréable. Pour qu'il y soit agréable. Oui, nous avons été touchés par Dieu. Dieu est venu, nous a donné des promesses. Je pense qu'on aime avoir des promesses, je pense qu'on aime dire tout vient de Dieu, je pense qu'on aime entendre Dieu nous dire « je vais te bénir, je vais te combler » et on a raison, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, on doit attendre de la part de Dieu ces choses-là parce que la parole de Dieu est remplie de promesses, la parole de Dieu est remplie de bénédictions pour ses enfants. Nous avons cette possibilité de nous approcher de lui, nous avons cette possibilité de l'invoquer, de courir dans ses bras d'amour lorsqu'il y a un problème, une difficulté, d'être comme Abraham, prompt à lui obéir, à le servir, à intercéder lorsqu'il y a des difficultés. Mais qu'en est-il de nos promesses? Qu'en est-il de ce que nous offrons au Seigneur? Isaac, c'était le fils de la promesse. Dieu va dire, et on est revenu dessus ce matin, et je sais que pour la plupart vous n'étiez pas là ce matin, mais comme pour marquer cet épisode marquant dans la vie d'Abraham, il va y avoir un fils de la promesse. La promesse de Dieu va se matérialiser. La promesse de Dieu ne reste pas lointaine. Ne reste pas dans les esprits, ne reste pas virtuel, ne reste pas au niveau de la connaissance. La promesse de Dieu, et c'est ainsi pour notre vie, se matérialise d'une manière concrète par la foi. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Ils attendaient, ils se sont fortifiés, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué jusqu'au bout pour prendre la promesse de Dieu. Et c'est un encouragement, bien évidemment, pour nous cet après-midi. On doit aller prendre les promesses de Dieu. Si, mon frère, ma sœur, Dieu t'a promis quelque chose, il est fidèle, il est tout-puissant pour aller jusqu'au bout, pour t'accorder ce qu'il t'a promis. Il est fidèle pour te donner, malgré le fait que toi, peut-être, tu ne vois pas, d'un point de vue humain, l'aboutissement. Peut-être que tout ce que tu vois, c'est contraire à ce que Dieu t'a promis, mais ce que Dieu promet, il l'accomplit, il ne peut pas se renier. Oui, tout vient de Dieu, et ce que nous avons nous vient de sa main. Et là, peut-être, ce qui va se compliquer et ce qui a marqué véritablement la vie d'Abraham, c'est lorsque Dieu va lui demander de quelque chose de particulier. Parce que c'est un fait d'avoir des promesses. C'est un fait d'avoir les bénédictions de Dieu. C'est un fait d'attendre et de persévérer. Et Dieu attend que nous soyons dans cet état d'esprit de foi, de persévérance, de confiance à son égard, pour que nous puissions nous emparer véritablement des promesses. Mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il dans notre vie lorsque Dieu nous dit « Mais maintenant, pour toi, prends le chemin de Morija. Maintenant, je t'ai donné la promesse. Je ne sais pas si vous remettez ce passage, c'est dans Genèse 22, Isaac était né. La promesse était là. La bénédiction de Dieu était venue dans la vie d'Abraham. Et nous, Dieu nous bénit et nous avons ces bénédictions. Nous avons la grâce de Dieu qui est là, on ne peut pas en douter. Mais à un moment dans notre vie, et nous pouvons nous poser cette question, est-ce que oui ou non nous voulons aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que nous voulons rester au stade d'Abraham où nous sommes bénis, il y a la bénédiction, il y a la promesse, et nous ne voulons pas aller plus loin? Nous voulons rester là dans notre confort, nous avons remporté des victoires et c'est bien, nous avons persévéré et c'est bien, nous avons la bénédiction et c'est bien, et maintenant, peut-être qu'on se dit, je vais me reposer, je vais rester là. Ou alors, comme Abraham a pu répondre, parce que Dieu veut toujours voir jusqu'où on peut aller. Dieu veut voir cet après-midi, qu'est-ce que nous serons capables de lui offrir dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va être capable de mettre sur l'autel cet après-midi? C'est là la question. Qu'est-ce qu'on met sur l'autel? Qu'est-ce qu'on met sur l'autel? Dieu va dire, va au pays de Morija. Et là, tu vas m'offrir ton fils en holocauste. Pour nous, je ne sais pas ce que vous en pensez quand on lit l'histoire. On est tranquille dans cette histoire-là, on est assis dans notre fauteuil, on se dit oui quand même, Abraham, il a été courageux, Abraham c'est bien, parce qu'on connaît l'aboutissement, on sait, on l'a appris, on ne l'a pas vécu, et bien sûr c'est une image, Dieu n'aurait jamais accepté qu'il mette la main sur son fils, parce que de toute manière, ce n'était pas un Isaac ou un Moïse qui pouvait être sacrifié pour nous, c'était son fils Jésus-Christ. Vous comprenez, c'est une image et on le sait. Mais Abraham, lui, il a vécu ces choses-là. La promesse de Dieu était là. Et ce que Dieu va lui demander pour aller plus loin, c'est de dire, toi, dans ta vie de chrétien, de chrétienne, dans ta vie que tu as consacrée à Dieu, dans ton existence, dans ce que tu veux partager, dans ce que tu veux avancer, dans ta consécration, est-ce que tu vas être capable, est-ce que tu peux être capable à un moment donné ou un autre de dire « Oui, Seigneur, les promesses que j'ai, je te les donne. La bénédiction que j'ai, je suis capable de la mettre sur l'autel pour toi. Oui, Seigneur, je suis capable d'offrir mon Isaac pour toi. Je suis capable de tout te donner pour toi. » Morija, la traduction, c'est apparaître, se présenter, faire voir, être exposé. La première partie de Morija. Et la deuxième partie, c'est Jéhovah, c'est l'Éternel. Sur le chemin qu'Abraham a pris, c'était pas un chemin de faux-semblants où Dieu n'acceptait pas, ne voulait pas voir ce que Abraham pouvait faire devant les hommes. C'était pas ça qui l'intéressait. Dieu ne veut pas voir notre comportement devant les uns, les autres, notre comportement uniquement à l'église, notre comportement lorsque nous sommes qu'entre chrétiens. Mais Dieu veut voir ce que nous sommes réellement lorsque nous sommes exposés devant lui. Lorsque nous sommes comme mis à nu devant lui, lorsque nous sommes là tels que nous sommes, tels que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé, c'est comme ça que Dieu veut nous voir. Et Abraham a pris ce chemin-là. Isaac n'a pas été sacrifié sur cette montagne, on ne sait pas où exactement, mais il a pris le chemin du pays de Morija. Et cet après-midi, est-ce que c'est un chemin que nous pouvons prendre? Nous, moi et vous, est-ce que c'est un chemin par lequel nous allons accepter de passer, de peut-être marcher pendant 3 jours, de pouvoir continuer? Est-ce que c'est un chemin que nous allons aimer prendre, où nous serons face à face avec le Seigneur, exposés au Seigneur tel que nous sommes, pour offrir tout ce que nous avons au Seigneur? Et j'en viens à mon troisième point, quelle offrande allons-nous donner? Parce que c'est là, et je pense que vous l'aurez compris, la pensée, ce qui est sur mon cœur, Vous savez, lorsqu'on doit apporter la parole, on prie, je pense que vous le savez, on se tient devant Dieu et il y a ces pensées qui viennent là, qui sont lourdes. Qu'est-ce que nous offrons au Seigneur? Qu'est-ce que nous offrons? Comme je l'ai dit, et j'y reviens un petit peu, Abraham, c'était plus que sa vie qu'il allait donner. C'était les promesses de bénédiction, c'était les promesses de Dieu. C'était tout ce qu'il avait. Je pense que Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, prends-moi, moi plutôt qu'Isaac. Seigneur, je veux bien te donner ce que je suis, mais pas mon fils. Seigneur, autre chose, mais pas ceci ou cela. Seigneur, je veux bien perdre ça. Je veux bien perdre ceci ou cela dans ma vie, mais surtout pas, ne touche pas à ça. Seigneur, je sais que tu m'as promis de me bénir à mon travail. Oui, Seigneur, je veux bien continuer, je veux bien avoir des épreuves, Seigneur, mais je veux surtout cette bénédiction. Je ne veux pas abandonner cette bénédiction, je ne veux pas abandonner cette grâce, je ne veux pas abandonner mon confort au travail, je ne veux pas abandonner mon confort, je ne veux pas abandonner ceci ou cela, et on est tous capables de mettre telle et telle chose dans notre vie. Et Abraham est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait offrir tout ce qu'il avait. Et à ce moment-là, dans sa vie, ce qu'il avait de plus précieux, ce n'était pas ses plus beaux agneaux, ses plus belles brebis, ce n'était pas son cheptel, ce n'était pas sa fortune, ce n'était pas son or, ce n'était pas son argent, ce n'était pas sa qualité de vie. Dieu ne lui a pas demandé d'aller 40 jours, 40 nuits dans le désert. Ce que Dieu recherche de nous, ce n'est pas notre surplus, ce n'est pas ce qui est secondaire, ce n'est pas ce que nous prêtons pas attention, mais ce que Dieu désire de nous, ce que Dieu veut et veut voir, parce qu'il va dire, voilà, maintenant Abraham, je sais que tu me crains. Maintenant, je vois que tu as un saint respect de ma parole, tu as un saint respect de ma personne. Et Dieu veut nous amener toujours plus loin à honorer sa parole, pour que nous puissions faire des progrès dans notre vie. Et on doit passer par Morija, on doit passer par un abandon de nous-mêmes, on doit être capable d'offrir ce qu'on a de plus précieux pour notre Dieu. On est tous et on peut tous dire, voilà, ce que j'ai de plus précieux, c'est ça. Mais pour toi, Seigneur, je veux le mettre sur l'autel. Pour toi, Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et je sais, on le lit vite, lorsqu'Abraham a lié son fils pour le mettre sur l'autel, alors que ça faisait 3 jours qu'il marchait. Ça faisait 3 jours que dans sa vie, il réfléchissait. Il se disait, peut-être aujourd'hui, Dieu va intervenir, il va me dire, c'est bon, arrête-toi là. Le jour d'après, peut-être qu'il se disait, mais c'est bon, arrête-toi là, j'ai vu que tu as marché, j'ai vu que tu étais résolu à me donner ton fils, il aurait pu le faire, le 3e jour, il aurait pu le faire, lorsqu'Abraham a laissé ses serviteurs et qu'il est parti à pied seul avec son fils, et que son fils lui a posé la question, mais il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, mais où est l'holocauste? Qu'est-ce que nous allons offrir? Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, est-ce que je peux lui répondre qu'il y aura une autre solution? Est-ce qu'on aime le Seigneur, mais jusqu'au point où on se dit, nous, dans notre tête, dans notre esprit, qu'il y aura un aboutissement à notre épreuve? Est-ce qu'on aime le Seigneur jusqu'à un certain point dans notre épreuve, dans notre tempête, où on se dit, Seigneur, la tempête dure depuis maintenant 1 semaine. Si ça dure 1 semaine et 1 jour, j'abandonne tout, je laisse ta parole, je laisse l'Église. Est-ce qu'on aime le Seigneur au point de dire, de persévérer, même si c'est notre propre chair qui est là, qui prend un chemin de traverse en disant, mais Seigneur, tu m'avais dit que si je gardais ta parole, mon enfant viendrait avec moi, mon enfant allait être gagné, et les années passent, rien ne se produit dans sa vie, il n'y a rien qui évolue. Alors est-ce qu'on dit, Seigneur, voilà, j'arrête tout? Mais est-ce que le Seigneur ne veut pas plus cet après-midi? Est-ce que le Seigneur ne veut pas qu'on lui donne tout? Nos promesses, si on a des promesses pour nos enfants, est-ce que le Seigneur veut pas qu'on arrive à mettre ses promesses sur l'autel pour qu'il puisse en faire ce que lui il veut, pour qu'il puisse être le premier? On peut aimer le Seigneur, mais on peut aimer les promesses du Seigneur plus encore. Est-ce que vous saisissez cela? On peut aimer le Seigneur, mais on peut aimer la bénédiction plus. On peut aimer la présence de Dieu, mais on peut aimer d'autres choses en plus qui nous procurent une sécurité. Parce que ça vient là nourrir peut-être notre chair, ce qu'on n'a pas laissé. Ça vient nourrir nos sens, ça vient nourrir ceci ou cela, mais ça nourrit pas notre amour pour le Seigneur. Qu'offrons-nous au Seigneur cet après-midi? Est-ce que le Seigneur n'est pas digne qu'on lui donne notre Isaac? Est-ce que le Seigneur n'est pas digne? Est-ce que, comme Abraham va pouvoir le dire plus tard, et j'anticipe un peu sur mon message, l'Éternel pourvoira. Est-ce qu'il n'avait pas expérimenté à d'autres moments dans sa vie que l'Éternel pourvoira? Est-ce que c'était le seul moment de sa vie où il a vu Dieu intervenir? Où il a vu la main de Dieu venir? Où il a vu la paix de Dieu le remplir? Est-ce que c'était le seul moment de sa vie de chrétien? Mais je pense que toute notre vie, on est appelé à ça. Toute notre vie, on est appelé à expérimenter que l'Éternel pourvoit. Toute notre vie, on est appelé à voir que tout ce qui peut se passer, ça n'a rien de valeur, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. La seule chose qui compte pour nous, c'est d'offrir nos corps, c'est d'offrir nos vies, c'est de garder cette ligne de conduite comme un culte logique, comme quelque chose qui est là, qui est comme mathématique. Christ s'est donné, moi je me donne. Christ s'est offert, moi je m'offre. Christ a souffert, moi je veux être prêt à souffrir. Christ n'a pas regardé à ce qu'il a perdu. Moi je ne veux pas non plus regarder à ce que je perds. Parce que c'est logique. Parce que c'est ça que Dieu demande. Oui, qu'est-ce que nous allons offrir? Qu'est-ce que nous offrons à notre Dieu? Il y a un passage dans la parole de Dieu qui est marquant. C'est dans Malachie, chapitre 1er, verset 8. Je le lis pour vous. Il est écrit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? Et bien sûr, c'est un contexte particulier, Dieu va parler à son peuple. Je ne veux pas accabler cet après-midi, je ne veux pas accuser, je ne veux pas meurtrir, mais avec l'amour de Christ, nous devons considérer que Dieu, c'est notre Père. On doit l'honorer. Dieu, c'est notre maître. Christ est notre maître. Et on doit marcher avec cette crainte. Oui, Seigneur, tu peux me demander des choses qui peuvent sembler difficiles. Mais il y a une joie dans l'obéissance. Parce que il y a après Abraham, après le sacrifice. Et on sait la bénédiction qu'Abraham a eue. Et nous-mêmes, nous sommes au bénéfice de la bénédiction d'Abraham, le père des croyants. Et si on prend la bénédiction, on prend le sacrifice. Si on prend ce que Dieu a toujours voulu nous donner, la bénédiction qui va combler notre existence, mais dans l'obéissance à sa parole, dans la conformité à la vie de Jésus-Christ, alors là, nous serons dans une plénitude. Mais on ne peut pas prendre la bénédiction qu'a eue Abraham et laisser de côté son sacrifice. On ne peut pas prendre une partie. On ne peut pas prendre la résurrection de Christ sans prendre la croix. On ne peut pas être là, vivre par l'Esprit s'il y a encore la chair en nous. Il y a des choix dans notre vie. Il y a une manière de marcher. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas fait la paix avec Jésus-Christ cet après-midi, laissez-moi vous dire qu'il a tout accompli, qu'il s'est donné pour que nous puissions vivre et marcher en nouveauté de vie, dans une vie de bonheur et de joie, comme nous l'avons vu et partagé. Mais nous ne pouvons pas couper, occulter une partie de la croix, occulter une partie du ministère de Jésus-Christ et prendre que la résurrection, que la vie. Oui, il y a eu la croix avant, il y a eu le sacrifice. Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous offrons dans Malachie, la suite du verset que nous avons lu? Il est écrit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel des armées. Et je fais juste une petite parenthèse parce que, encore une fois, je ne veux pas accabler. Mais vous voyez le danger dans notre vie, dans ce que nous pouvons tomber, ce qui peut nous faire glisser comme une peau de banane, c'est qu'on en vient à offrir à notre Dieu que nos gémissements. On en vient à offrir à notre Seigneur que des discussions, que des plaintes. On en vient à se mettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais je t'offre que mes péchés, que mes combats, que mes détresses. Je t'offre pas mon corps, mon âme, mes sacrifices de louange. Je t'offre pas ce que je suis. Je viens pas sur l'autel, mais je mets sur l'autel peut-être ce qui est abîmé et cassé. » Abraham a tout donné. Abraham a offert tout ce qu'il avait. Après, il y a eu la bénédiction. Après, il a été comblé. Et j'en viens au dernier point. Parce que je reviens au premier livre des Chroniques, verset 29. On a lu ce texte. « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Et je l'ai dit au commencement, c'était un passage important dans la vie du peuple, dans la vie de David, dans la vie de Salomon. Et alors qu'on a vu que Dieu attendait tout de notre part, Salomon va prendre la suite. Et vous savez ce qu'il est écrit ? C'est dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1er, je le lis pour vous. Il est écrit « Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija. » Cette même vallée, cette même montagne, ce même pays qu'a pris Abraham, ce même pays qui avait été peut-être difficile, ce même trajet qui avait coûté tant et tant à Abraham, Salomon, lui, va bâtir le temple sur la montagne de Morija. Et nous devons arriver à ça. Nous devons à bâtir un temple dans notre vie. Nous devons arriver à rétablir le temple dans notre vie, dans notre existence. Et pour bâtir le temple, pour rebâtir peut-être le temple pour quelqu'un qui a perdu la faveur, perdu la flamme, perdu le zèle, pour rebâtir ce temple, il a fallu de l'or, il a fallu de l'argent, il a fallu des matériaux précieux, il a fallu du travail, il a fallu tout donner au Seigneur. On ne peut pas dire « Seigneur, je veux bâtir le temple, je veux être ton représentant sur terre, je veux répandre ta lumière, je veux témoigner, je veux propager la vie de Christ, je veux évangéliser, je veux que mon témoignage puisse porter du fruit, je veux ceci ou cela, si dans notre vie nous n'avons pas été capables de tout donner à Dieu. » Si dans notre vie, nous sommes là et nous sommes encore sur le chemin de Morija, parce que dans notre cœur, il y a eu des combats, des batailles, parce que dans notre âme, il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées. Nous devons venir, nous devons prendre ce chemin, avancer jusqu'à Morija pour bâtir un temple, pour dire peu importe ce qui va se passer, peu importe les souffrances qu'il va y avoir, peu importe encore ce que Dieu va me demander, me redemander, peu importe les luttes, les marches dans le désert, la seule chose qui aura de l'importance dans ma vie, c'est que le temple de l'Éternel soit rebâti. C'est que le temple dans ma vie soit bâti, c'est qu'il y ait un autel qui apporte cette bonne odeur à mon Dieu et à mon roi. Oui, oui, nous devons offrir tout à notre Dieu, tout cet après-midi. Et qu'offrons-nous au Seigneur. Je pense que nous ne pouvons pas prendre ce saint repas comme nous l'avons toujours pris. Je pense qu'il faut regarder, réfléchir, se considérer vraiment. Quelle est notre vie ? Est-ce que nous sommes encore en train de marcher au pays de Morija parce que Dieu nous a demandé quelque chose et on n'arrive pas à le faire ? Est-ce que Dieu nous demande une pureté de vie, une sainteté de vie et on n'y arrive pas? Est-ce que Dieu nous demande de nous séparer de quelques fréquentations? Je ne sais pas. Dieu seul le sait, Dieu sait ce qu'il vous demande. Est-ce que Dieu vous demande de vous consacrer davantage, de passer plus de temps dans la parole et vous êtes là? Peut-être vous n'y arrivez pas, vous marchez, et au lieu d'aller sur la montagne pour offrir ce que Dieu vous demande, pour pouvoir bâtir le temple, vous êtes encore en train de marcher. Je pense que maintenant, cet après-midi, c'est un moment où nous pouvons dire « Oui, Seigneur, je te donne tout, prends ma vie, sers-toi de moi, prends tout, Seigneur, je te donne ma vie, mon corps. » On est tous là et je pense que on est devant le Seigneur et nous pouvons répondre chacun pour notre part individuellement. Si Dieu nous a demandé quelque chose de difficile, il sera pleinement capable de nous accompagner pour que nous puissions remporter cette victoire. Si Dieu veut que nous puissions aller plus loin encore, mettre nos promesses sur l'autel, mettre nos bénédictions sur l'autel pour dire « Seigneur, ce que j'aime le plus dans ma vie, c'est toi, c'est pas ce que tu peux me donner. » Ce que j'aime le plus, c'est toi. Non pas pour ce que tu vas me donner, non pas pour ce que tu vas faire dans ma vie, mais parce que tu es Dieu, parce que Jésus-Christ s'est donné et parce que tu mérites mon adoration. J'aimerais prier un instant, si vous le voulez bien. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce qu'elle est la vérité, elle est esprit et vie. Et nous croyons que cet après-midi, tu as voulu nous parler. Et tu nous poses cette question, qu'est-ce que nous t'offrons? Et cet après-midi, nous voulons répondre, chacun pour notre part, mais nous voulons être sincères devant toi. Oui, nous voulons tout offrir. Et Père, je te prie, s'il y a dans ce lieu un bien-aimé, une bien-aimée qui a encore quelque chose dans sa vie, qui a fait un compromis, qui a accepté, qui a ouvert des portes, qui n'a pas tout réglé, et qui est là et tu lui demandes de régler, d'abandonner ses compromis, qu'elle n'y arrive pas, Père, s'il te plaît, ou qu'il n'y arrive pas. Aide cette personne, afin qu'elle puisse rebâtir l'autel, rebâtir le temple, pour t'adorer. Père, s'il y a là quelqu'un qui a chuté, qui s'est laissé avoir, qui a glissé, son témoignage a été peut-être entaché, Père, s'il te plaît, qu'elle puisse revenir dans ta présence, qu'elle puisse prendre ce saint repas, le cœur rempli de joie pour se réjouir à nouveau avec toi. Oui, Seigneur, rebâtis des autels cet après-midi. Rebâtis, aide-nous à rebâtir des temples pour ta gloire. Aide-nous à rebâtir pour toi, pour que nous puissions t'honorer et te glorifier dans nos vies. Merci pour ce saint repas que nous allons prendre. Nous voulons vraiment considérer, Jésus, que tu es mort pour nous, que tu as tout donné pour que nous puissions jouir ici-bas d'une vie remplie de paix, de joie et de bonheur. Merci parce que tu vas revenir nous chercher. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as fait, mais nous te bénissons pour qui tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.